Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons notre série « Le fondement de la rédemption ». Le titre aujourd'hui sera « La loi et le chemin de la vie ». La loi et le chemin de la vie. Numéro 10, c'est l'étude numéro 10. Il est dit dans le psaume 119, et je me trompe, excusez-moi, dans le psaume 19, tout simplement, au 8e verset, la loi de Dieu est parfaite, elle restaure l'âme. En effet, on en a besoin. S'il n'y a plus aucun critère, aucune loi divine, aucune discipline de vie, on en viendra à être pire que les animaux. Et c'est le cas aujourd'hui. Le service religieux dans le temple juif avait un sens double. Établir la relation qui lie Israël à Dieu dans le royaume de Dieu et prophétiser l'œuvre du Christ. L'un est symbolique, l'autre est théologique. Le symbole est l'enveloppe visible de quelque chose d'invisible. Si vous voulez, c'est le vêtement matériel d'une vérité plus élevée, à la fois impression et expression d'une chose spirituelle située au-delà, parfois bien au-delà du domaine des sens. Le type est un symbole prophétique tel que les personnes, des choses, des institutions ou événements qui se rapportent au Christ et à son œuvre de rédemption, donc une ombre des choses à venir. Notez Hébreux, chapitre 10, verset 1, et le chapitre 9, verset 11, Colossiens, chapitre 2, verset 16 et 17, c'est donc un préétablissement des choses célestes, selon Hébreux chapitre 9, verset 23. Tandis que le symbole concerne une vérité spirituelle contemporaine, se confinant donc à l'Ancien Testament en relation avec Israël, le type est prophétie messianique en ce qu'il regarde vers l'avenir et se rapporte au Christ. Le symbole reste dans la loi, alors que le type regarde vers la grâce, c'est tout autre chose, devenant ainsi comme un fragment de l'Évangile au sein de l'Ancienne Alliance, comme une portion du Nouveau Testament dans l'Ancien. Par là, le culte de l'Ancienne Alliance se manifeste sous une double physionomie. A. Symboliquement, la communion avec Dieu dans l'Ancien Testament. B. Typologiquement, la communion avec Dieu dans le Nouveau Testament. Cette dernière s'exprime à travers les sacrifices, fondements néo-testamentaires du salut, le tabernacle, la conception néo-testamentaire du monde sous l'angle du salut, le médiateur néo-testamentaire du salut, la communion néo-testamentaire du salut. Le service culturel de l'Ancienne Alliance s'acquitte donc de son mandat par le quadruple accomplissement des prescriptions relatives au, premièrement, au lieu du service, le saint des saints, le lieu saint et le parvis. Il y a eu successivement trois lieux destinés au service religieux, le tabernacle, le temple de Salomon et le temple de Zorobabel, agrandi ensuite par Hérode. Deuxièmement, personnel du service, le souverain sacrificateur, les sacrificateurs et les lévites. Et troisièmement, activité du service, telles que les offrandes, offrandes sanglantes et non sanglantes, les préceptes de purification en rapport avec la naissance, en rapport avec la mort et la lèpre, et les pratiques religieuses telles que la circoncision, les vœux et les diverses fêtes. Quatrièmement, on a le calendrier du service tel que les sabbats, les sept grandes fêtes, les années sabbatiques et jubilaires. Tout d'abord, nous avons la communion avec Dieu dans l'Ancien Testament. Par ce quadruple lien, le Seigneur s'unissait à son peuple. Les ordonnances morales rendaient manifeste la distance qui séparait le pécheur du Dieu saint. Le service cérémoniel, quant à lui, ce service avait pour objet principal la communion. Les sacrifices constituaient, en fait, un rappel annuel du péché. Hébreux chapitre 10, verset 3. Et en cela, se trouvait sur le même plan que la loi morale. Néanmoins, leur signification essentielle atteignait une certaine forme de pardon ou couverture des péchés. Lévitique chapitre 4, verset 20 et le chapitre 5, verset 10. Et par là, une relation correspondante avec le Très-Haut. Donc, tout cela, on le comprend, est très important. Et c'est pour cela que les sacrificateurs étaient appelés ceux qui s'approchent. Lévitique chapitre 10, verset 3. Ceux qui s'approchent du lieu du culte de la tente d'assignation, ou si vous voulez, de rassemblement. C'est là que se retrouvaient Israël et Dieu. Exode chapitre 33, verset 7 et le chapitre 40, verset 34. C'est à cause de cette rencontre que le couvercle de l'Arche de l'Alliance constituait le centre et l'objet le plus saint de tout le culte. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'Arche du témoignage, et là je te donnerai tous mes ordres. Exode chapitre 25, verset 22. L'idée de base du service sacerdotal mosaïque avait donc en vue non seulement la propitiation, mais encore la réconciliation, non une simple compensation découlant d'un droit juridique, mais une reprise de communion de la relation découlant d'un amour rédempteur. Cette réconciliation est en effet rendu possible par le sacrifice mosaïque en ce qu'il couvre le péché. Hébreux chapitre 10 et chapitre 11. Les sacrifices ne peuvent évidemment pas enlever les péchés, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché, selon Hébreux chapitre 10, verset 4, verset 9 et verset 11. Donc, seul le sacrifice du Christ allait permettre cela, Hébreux chapitre 9, verset 26. Mais en tant que regard tourné à l'avance vers Golgotha, ce sang couvrait les péchés dus aux faiblesses, les soustrayant pour un temps à la vue du Seigneur. Je répète, ce sang couvrait les péchés dus aux faiblesses, les soustrayant pour un temps à la vue du Seigneur. Tel était donc le rôle assigné au sacrifice et, à cause de leur relation à la croix, telle était aussi la force du système. Avant Golgotha, l'humanité dans son ensemble était au bénéfice de l'indulgence de Dieu. Romains chapitre 3, verset 25. Israël, sur la base de ses sacrifices, avait part à un certain, on peut dire, une purification extérieure. Donc, elle avait part à une purification extérieure au pardon des péchés et à une certaine communion avec Dieu relativement limitée, mais absolument réelle. Il ne faut donc pas être surpris de ce que les prophètes et le psalmiste, quoique dans le cadre de l'Ancien Testament, ils ont exulté en chantant. En chantant, ils ont exulté les bénédictions et les effets vivifiants de la loi. Au-delà de la culpabilité qu'elle expose et du désespoir auquel elle conduit, ils voyaient la loi comme étant la joie pour le cœur. Psaume 19, verset 9, et des délices, psaume 119, verset 47, et les béatitudes, psaume 32, verset 1. La connaissance du péché, nous dit saint Paul, Romains chapitre 3, verset 20, la couronne de bonté et de miséricorde, nous dit David dans le psaume 103, verset 4. La lettre tue, nous dit l'apôtre Paul, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Et la loi restaure, dit le psalmiste au psaume 19, verset 8. Il est dit dans Romains, chapitre 7, verset 24, « Misérable que je suis », c'est ce que vous pouvez lire dans l'Épître aux Romains, j'ai dit, chapitre 7, verset 24. « Et heureux l'homme », affirme les psaumes. Psaume 1, verset 1, et psaume 32, verset 1. Le Seigneur te bénisse, affirme le grand prêtre, dans Nombre, chapitre 6, verset 24. Et pourtant, l'un et l'autre parlent de la même loi, et les deux ont raison. La loi est en effet semblable à l'aiguille de la boussole. Elle indique un seul but, le Christ. Cependant, elle est en elle-même une unité de deux pôles, en ce qu'elle exige sur le plan de la conduite Elle est d'abord sainteté, dans son service de Dieu principalement amour, en ses lois morales, séparation, en ses lois cérémonielles, communion. Dans ses règles de conduite, elle lie. Dans ses lois sacerdotales, elle rend libre. Là, autorité et la rédemption. Ou si vous voulez, là, il y a l'autorité et ici, nous avons la rédemption. Là, nous avons la mise à nu et ici, nous avons le manteau qui couvre. La propitiation, ici, réconciliation. En quelques mots, les lois morales sont donc semblables à un palais de justice. Les ordonnances cérémonielles, elles sont pareilles à un temple. Cependant, les deux sont indissolublement liés comme les deux pôles de la boussole. Il y a en effet une seule loi d'Israël. Jacques chapitre 2 verset 10. Avec un seul médiateur. Moïse est un seul but, c'est le Christ. C'est lui qui apporte aux deux pôles leur accomplissement. En réponse aux lois morales, la grâce, en réponse aux lois cérémonielles. Je répète, en réponse aux lois morales, nous avons donc la grâce. Et en réponse aux lois cérémonielles, nous avons la vérité, qui est la substance au lieu de l'ombre. Colossiens chapitre 2, verset 17 et Hébreux chapitre 10, verset 1. Ainsi, la loi fut donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité, elles sont venues par Jésus-Christ. Saint Jean, chapitre 1, verset 17. Cela doit suffire à montrer qu'il serait complètement faux de concevoir l'Ancien Testament simplement comme une première étape maintenant surmontée vers le Nouveau Testament. L'Esprit Saint était l'âme de la loi. Notez la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 11, Hébreux, chapitre 3, verset 7, et Ézéchiel, chapitre 31, verset 3. Le psautier de la congrégation de l'Ancienne Alliance pouvait sans problème devenir le recueil d'hymnes des communautés primitives du Nouveau Testament. 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 15 et 26, Éphésiens, chapitre 5, verset 19, et Colossiens, chapitre 3, verset 16. Sous l'angle de son but, l'Ancien Testament est subordonné au nouveau. Et pourtant, vu du dedans, en soi, il est entièrement indépendant. L'Ancien Testament, sans le nouveau, est un édifice sans toit. Le Nouveau Testament, sans l'Ancien, est une maison sans fondement, qui, en quelque sorte, flotterait dans les airs. L'Ancien Testament garde ainsi ses droits et le Nouveau garde ainsi ses privilèges. Le Nouveau est voilé, mais déjà effectivement contenu dans l'Ancien. L'Ancien est dévoilé en même temps que glorieusement développé dans le nouveau. Dans l'ancien, le nouveau est caché. Dans le nouveau, l'ancien est révélé, selon Augustin. L'ancien est le bourgeon en lequel toute la splendeur de la fleur est déjà présente, mais enfermée. Le Nouveau Testament est la fleur épanouie, ouverte dans le déploiement de toute sa gloire et dont le parfum se répand pour la joie de tous. L'Ancien et le Nouveau Testament sont un et pourtant chacun est distinct. Ensuite, nous avons le salut néo-testamentaire dans l'Ancien Testament. L'affirmation décisive et fondamentale de l'Ancien Testament est celle-ci. L'Éternel ton Dieu est le seul éternel. Dieu est éternel et nous sommes des êtres temporels. Il est le saint et nous sommes les pécheurs. Il est le vivant, nous sommes sous la puissance de la mort. Si malgré cela, une quelconque union pouvait s'établir entre lui et nous, elle devrait être entièrement son œuvre. Il faudrait que lui-même la crée par l'introduction de quelque chose de l'éternité, quelque part dans le monde de l'espace et du temps. Il devenait donc clair par là que le développement entier est une seule grande période du commencement à la fin, une seule œuvre divine de réconciliation universelle. La manifestation du Christ est l'aboutissement et le plein accomplissement de la révélation inaugurée avec l'alliance abrahamique. Et c'est pourquoi Jésus-Christ est aussi appelé le Christ, c'est-à-dire celui de qui l'Ancien Testament prophétisa que Israël attendait et que Dieu a donné. Psaume chapitre 2, verset 2 et 1 Samuel chapitre 2, verset 10. Vous pouvez ajouter Daniel chapitre 9, verset 25. Les écrits des prophètes le présentaient sous ce nom. Loin, loin, sous l'ancienne alliance. Son titre de Christ souligne ainsi l'indivisible identité de sa personne à la révélation de Dieu dans l'Ancien Testament. De cette unité historique reliant les millénaires découle que même au temps de l'Ancien Testament, Dieu était à même de donner une certaine pré-présentation ou avant-goût, un avant-goût du salut à venir sous la forme de prophéties en actes et en faits inclus dans le service cultuel et dans les institutions diverses, dans les grandes lignes de l'histoire où les faits individuels, chacun ayant pour but Christ et son œuvre de rédemption. Mais ils l'ont considéré sous l'angle nouveau de son but et de sa signification effective. Colossiens chapitre 2 verset 17 et Hébreux chapitre 10 verset 1. C'est ainsi que le serpent d'airain est en somme un type de la croix, selon saint Jean, chapitre 3, verset 14. Le prophète Jonas est un type de la résurrection, Saint Matthieu chapitre 12, verset 40. La manne dans le désert est une image du Christ en sa qualité de pain de vie. Saint Jean chapitre 6, verset 31 à 35. Plus encore que le reste, ce sont les institutions et prescriptions relatives aux offrandes et aux sacerdoces qu'il convient de noter ici. À travers elles et avant le Christ, l'œuvre du Seigneur était comme préorganisée en symbole. Il est l'original dont elles étaient préfiguration. Elles étaient type du Christ. Il fut leur accomplissement. Hébreux, chapitre 8, verset 5 et chapitre 9, verset 23 à 25. Néanmoins, aucun de ces actes sacerdotaux n'avait de valeur en soi. Hébreux, chapitre 10, verset 4. Leur vertu, il la recevait du seul sacrifice de Golgotha. Ils étaient sans force et pourtant agissants. Ils étaient pauvres et pourtant enrichissants. Ils étaient infirmes et pourtant dispensateurs de bénédictions, semblables à des traites tirées sur une banque nationale, simple feuille de papier en elle-même, possédant pourtant une valeur avant leur échéance par la seule perspective du jour de l'encaissement. Par le sacrifice de sa mort en croix, Jésus-Christ a pleinement honoré ses traites de l'Ancien Testament. Premièrement, nous avons l'offrande mosaïque. De tout le reste accompli dans le temple en Israël, l'offrande est l'acte suprême. Quatre exigences essentielles en constituent l'idée de base. Premièrement, en ce qu'elle devait être sans défaut, l'offrande souligne la sainteté du Seigneur Jésus-Christ, d'une part affranchie de tout héritage du péché grâce au miracle de sa naissance, d'autre part libre de tout péché effectif par la sainteté de sa conduite. Deuxièmement, l'imposition des mains par laquelle l'offrant s'identifie à l'offrande et souligne comment le Seigneur Jésus-Christ a accepté de porter la culpabilité. Quand le Christ, l'homme sans péché, se soumit volontairement au baptême de repentance pour le pardon des péchés, selon Marc chapitre 1 verset 4, il manifestait ses dispositions volontaires à accepter la place du pécheur et à devenir un avec lui et à porter les péchés de l'humanité. Saint Matthieu chapitre 3 verset 14 et 15. Disposition qui fut pleinement et historiquement réalisée à la croix. 1er épître de Pierre, chapitre 2, verset 24. Troisièmement, à Golgotha, Jésus endura le châtiment. C'est en cela que la mise à mort de l'offrande était une prophétie concernant la croix, Hébreux 9, versets 13 et 14. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux chapitre 9, verset 22. Ces trois premiers préceptes relatifs au sacrifice se rapporte à l'œuvre du Christ sur la terre. Au jour de sa chair, il a souffert pour nous afin de nous assurer un plein salut. Hébreux chapitre 5, versets 1 à 9. Mais ce qui nous a été acquis doit encore être approprié. Ceci ne s'accomplit que par la foi et dans l'unité qui en résulte, liant débiteur et garant. Saint Jean, chapitre 6, verset 53. Christ pour nous doit donc devenir Christ en nous, et à son sacerdoce sur la terre doit s'ajouter un sacerdoce dans le ciel, une unité organique préfigurée par, et là on a quatrièmement, par le repas qui accompagnait le sacrifice. Si vous ne mangez la chair, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous ne pouvez avoir la vie en vous-même. C'est ce qu'a dit Jésus-Christ. Saint Jean, chapitre 6, versets 53 à 57. D'où la persistance de l'humanité du Christ dans sa résurrection corporelle et l'envoi de son esprit afin de rendre possible l'unité avec les rachetés. Et de là encore, la nécessité de la nouvelle naissance de l'individu et de la communion organique qui doit unir les membres à la tête. On le voit, le sacrifice mosaïque embrasse toute l'œuvre du Christ. Elle embrasse toute l'œuvre du Christ de la naissance jusqu'au baptême et du baptême à la croix et au-delà de la croix, c'est-à-dire jusqu'à la résurrection et à l'envoi de l'Esprit Saint. Donc, en fait, jusque et y compris son ministère éternel de souverain sacrificateur à la manière de Melchizedek. Deuxièmement, nous avons le tabernacle. Israël rendit son culte en trois lieux successifs pour ne compter que les principaux. Dans le tabernacle au désert et à Silo, selon 1 Samuel, chapitre 1, verset 3, entre 1500 et 1000 avant Christ, ensuite dans le temple de Salomon à Morija, 1 Roi, chapitre 6, verset 1, entre les années 1000 et 586, enfin dans le temple de Zorobabel à partir du retour de la captivité, Esdras, chapitre 3, verset 8, temple qui fut agrandi ensuite par Hérode, Saint Jean, chapitre 2, verset 20, cela dans les années 536 ou 521 avant Christ, même jusqu'en 70 après Christ. Tous les trois, dans les grandes lignes, suivaient un même plan de construction. Exode chapitre 25 à 27 et le verset 30. Je crois que là, je me trompe. Il faut noter Exode chapitre 25 jusqu'au chapitre 27 et ajouter le chapitre 30. Il y a donc là une grande étude. Et ils avaient la même signification dans le cadre du plan du salut. Donc la tâche du tabernacle était tout d'abord d'être, premièrement, d'être une image de l'univers, et ce, sous l'angle particulier du royaume de Dieu. Cela est rendu spécialement évident au moment de l'entrée du grand prêtre dans le lieu très saint, au grand jour des expiations cérémonielles, qu'il est aisé de relier à l'accomplissement néo-testamentaire en Christ. Lévitique chapitre 16 et Hébreux chapitre 9, versets 23 et 24. Les objets du tabernacle étaient des figures des choses célestes. Hébreux chapitre 9, verset 23. Après Golgotha, le Christ n'entre pas dans un sanctuaire fait de main d'homme qui est une simple représentation du vrai sanctuaire, mais il entre dans le ciel, même en effet dans le ciel, afin de paraître pour notre salut, pour paraître devant la face de Dieu, et je répète, pour notre salut. Il découle de cela que le sanctuaire terrestre est une figure du céleste et que, comme le grand prêtre de la famille d'Aaron traversait le lieu saint avec le sang des offrandes consumées dans le parvis, afin d'entrer dans le lieu très saint. Lévitique chapitre 16, versets 11 à 14. Ainsi, le Christ a traversé les cieux avec son propre sang versé. Hébreux, chapitre 9, verset 12, à l'autel terrestre de Golgotha, afin de paraître devant le trône de grâce de Dieu. Hébreux 4, verset 14 à 16, dans le lieu très saint de l'univers, au-dessus de tous les cieux. Hébreux, chapitre 7, verset 26, et Éphésiens, chapitre 4, verset 10. Sur la terre, Dieu poursuit une double tâche, la justification et la sanctification du racheté. Aussi y avait-il deux objets dans le parvis, l'autel des offrandes consumées par le feu et le bassin de purification, Éphésiens chapitre 5, versets 25 et 26. Dans le ciel sont la vie, la lumière et l'adoration de l'Éternel au milieu des esprits célestes. La table des pains de proposition, et nous avons le pain de vie en Saint Jean chapitre 6 verset 48. Il y a le chandelier, l'autel des parfums, psaume 141 verset 2 et Apocalypse chapitre 8 verset 3. Et il y a les figures des chérubins sur le couvercle de l'arche et sur le voile, rendant témoignage à ces vérités célestes. Au-dessus de tous les cieux est le trône de Dieu lui-même. Là est la loi qui régit l'univers, de même que dans le lieu très saint se trouvent les tables de la loi. 1 Roi, chapitre 8, et chapitre 9. Là se trouve aussi la grâce qui pardonne, faisant du trône de la souveraineté divine un trône de grâce. Exode chapitre 25 verset 17 et Hébreux chapitre 4 verset 16. Et par-dessus tout, oui, par-dessus tout, nous avons la lumière de la gloire de Dieu, pareille à la nuée de la Shekinah, illuminant tout le reste. Exode, chapitre 40, versets 34 et 35, et 1 Timothée, chapitre 6, verset 16. Tous ces plans d'amour, Dieu les accomplit en Christ, et c'est pour cela que le tabernacle devient en même temps comme un doigt pointé vers le Christ. Ainsi, le tabernacle est-il, deuxièmement, un type du rédempteur du monde. En Christ, nous avons la parole incarnée qui a dressé sa tente parmi nous. Saint Jean, chapitre 1, verset 14, un tabernacle, on a bien dit, et donc tous les types du tabernacle sont maintenant accomplis. Christ, en effet, il est quoi? Il est notre justification. Donc, l'autel des offrandes consumé. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. Il est également notre sanctification, c'est-à-dire le bassin de purification, selon 1 Corinthiens, chapitre 1, toujours le verset 30. Il nous a établis dans les lieux célestes, Éphésiens 1, verset 3 et chapitre 2, verset 6, qui est le lieu saint, qui est une image des cieux, Hébreux, chapitre 9, verset 26. En ces lieux célestes de notre position, il est notre lumière, il est le chandelier à sept branches, Saint Jean, chapitre 8, verset 12. Il est notre pain, les pains de proposition, Saint Jean, chapitre 6, verset 48. Et il est notre souverain sacrificateur intercesseur, qui est l'autel d'or des parfums, selon Hébreux, chapitre 7, verset 26, psaume 141, verset 2, et Saint Jean, chapitre 17. Finalement, il nous introduira en sa présence, gloire à Dieu, qui est le lieu très saint, et recevra l'adoration du peuple qui l'a racheté, lui l'agneau immolé. L'arche de l'Alliance est donc son propitiatoire aspergé de sang. Romains, chapitre 3, verset 25. En lui, nous serons nous-mêmes rendus conformes à sa ressemblance. Romains chapitre 8, verset 29, et 1er épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 2, en sorte que le tabernacle est en même temps, troisièmement, un type de la communion et de la voie du salut. Donc, ceux qui croient, considérés d'en bas, sont justifiés et arrachés aux ténèbres et à la puissance du péché, l'autel des offrandes est consumé. Considérés du dedans, ils sont sanctifiés par le lavage d'eau, la sainte parole, qui est la cuve de purification, selon Éphésiens, chapitre 5, verset 26. Considérés du dehors, ils brillent comme des flambeaux, lui rendant témoignage, le chandelier. Apocalypse 1, verset 12, chapitre 2, verset 5 et Zacharie, chapitre 4. Considérez donc d'en haut, ils prient et ils adorent avec l'encens de la louange, qui est l'autel d'or. Apocalypse chapitre 8, verset 3 et psaume 141, verset 2. Considérez à tous égards, ils sont fortifiés par le pain de vie, les pains de propitiation. Saint Jean, chapitre 6, verset 48. Enfin, en ce qui concerne la marche en avant, ils se hâtent afin d'apparaître, oui, pour apparaître devant son trône, qui représente l'arche de l'Alliance. Par toutes ces figures, le culte rendu par les Israélites devenait une prophétie sublime du but réalisé en Christ. C'est là le plus prophétique des éléments de la loi de l'Ancien Testament, en même temps qu'un chaînon reliant la loi à la prophétie. Et quatrièmement, nous avons la supériorité de l'ordonnance néo-testamentaire. En tout cela, l'accomplissement dépasse de beaucoup chacun des types, selon Saint Matthieu, chapitre 13, versets 16 et 17. Dans l'ancienne alliance, une partie était donnée pour le tout, un douzième pour douze douzièmes, comme en ce qui concerne la tribu de Lévi, mais à part pour le sacerdoce. En effet, la tribu de Lévi a été mise à part pour le sacerdoce. Nombre, chapitre 8, versets 16 à 18, au lieu de Exode, chapitre 19, verset 6. Un dixième pour dix dixièmes, en ce qui concerne la dîme qui est offerte, selon Lévitique, chapitre 27, verset 30. Un septième pour sept septièmes par la sanctification du sabbat. Exode, chapitre 20, versets 8 à 11. Dans la nouvelle alliance, par contre, tout est réclamé. Non une tribu de prêtres, mais un royaume de prêtres. Premier épître de Pierre, chapitre 2, versets 5 et 9. Non un dixième de nous-mêmes, mais notre être tout entier. Colossiens chapitre 3, verset 17. Non un jour, mais la semaine. Colossiens chapitre 2, verset 16 et 17. Ainsi que Romains chapitre 14, verset 5 et verset 7 et 8. Et non seulement la semaine, mais l'année, la vie, le temps et l'éternité. Dans l'ancienne alliance, n'était que l'ombre. Dans la nouvelle alliance, est le corps. Colossiens chapitre 2, verset 17 et Hébreux chapitre 10, verset 1. Car la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Saint Jean, chapitre 1, verset 17. Dans l'ancienne alliance, il y avait la place pour quelque tolérance à cause de la dureté de leur cœur. Saint Matthieu 19, verset 8. Pour terminer notre étude, nous pouvons dire que la nouvelle alliance retentit du solennel « Mais moi, Mais moi, je vous le dis. Saint Matthieu, chapitre 5, verset 22, verset 34, verset 38 et 39. Dans l'ancienne alliance, il y avait pluralité de sacrifices selon Nombre, chapitre 28 et chapitre 29. Il n'y en avait pas moins de 1273 par année, soit plus de 2 millions entre Moïse et Christ, compte non tenu des offrandes privées. Du Christ, par contre, il est dit, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours tous ceux qui sont sanctifiés. Hébreux, chapitre 10, verset 14. Christ a donc non seulement accompli, mais encore il a surpassé tout ce que la loi contenait de symbolique et de prophétique. La loi fut une haie, une bride et un frein, ainsi qu'une règle, une barrière et un miroir. Mais c'est la croix du Christ qui en est le sceau impérissable. Alléluia. Daniel chapitre 9, verset 24. Et c'est pourquoi, départez-vous de vos propres conceptions et de vos propres sentiments et considérez cette sainte écriture comme le sanctuaire le plus élevé, le plus saint et le plus noble, comme la plus inépuisable mine de richesse à jamais insondable, afin que vous puissiez trouver la sagesse divine que Dieu établit ici si simplement qu'elle peut éteindre tout orgueil. Et ici, vous trouverez la crèche et les langues dans lesquelles Christ repose. Oui, ici, vous trouverez la crèche, et je me suis trompé, et les langes, car vous savez que on lui avait donc également mis des langes dans lesquels on l'avait donc embaumé en quelque sorte. Et c'est là les langes, elles sont, on peut dire, misérables. Par contre, le trésor qu'ils contiennent est absolument précieux. Pourquoi ? Parce que c'est le Christ lui-même. Et ça, ça change tout. Chers amis, dans la prochaine étude, nous aurons le témoignage prophétique et nous parlerons des prophètes de Dieu. Chers amis, nous allons terminer, si vous le voulez bien, par la prière. Prions donc ensemble. Dieu de tout miséricordieux, oui, tu es le Dieu, tout miséricordieux. Tu es la force de tous ceux qui mettent leur confiance en toi. Exauce nos prières pour l'amour de ton Fils bien-aimé. Que ta grâce nous prévienne et nous accompagne à la fin de la journée quand nous allons nous livrer au sommeil, comme aussi lorsque au matin nous reprenons le cours de notre vie. Que ta protection nous garde en tout temps et en tout lieu. qu'elle nous défende contre tout danger et toute tentation. Nous avons besoin sans cesse de répéter cette demande de l'oraison accomplie que notre divin Sauveur a daigné nous apprendre. Ne nous abandonne pas à la tentation. Sans ton secours, ô Seigneur, comment pourrions-nous échapper au piège que l'ennemi de nos âmes ne se lasse pas de tendre autour de nous? Lorsque nous nous croyons affermis, c'est à ce moment même que nous sommes le plus près de succomber en transgressant les lois divines. C'est pourquoi que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. Veillons et prions de peur que nous ne tombions dans la tentation. L'humilité, la défiance de nous-mêmes, la fidélité à implorer la protection de notre Dieu, un désir sincère de ne pas l'offenser. Voilà les dispositions qui peuvent nous préserver du mal, on peut dire du malheur, d'être vaincus par la tentation. Jésus, notre adorable Sauveur, tu fus tenté toi-même afin de pouvoir aussi secourir ceux qui sont tentés. Ton exemple nous apprend comment nous devons repousser le tentateur. Le Rédempteur du monde, le Verbe éternel, ne répondit à ces dangereuses suggestions que par les paroles mêmes des Saintes Écritures. Nous enseignons ainsi ce que nous devons faire et nous montrons que la parole de Dieu doit être notre bouclier comme elle est notre lumière et notre guide infaillible. Seigneur, daigne nous apprendre à fuir les tentations de quelque nature qu'elles puissent être et daigne nous inspirer un véritable et salutaire effroi de t'offenser. Daigne détruire par ta puissance tout prestige et toute funeste séduction, que le mal soit toujours le mal pour nous, le péché toujours le péché, les ténèbres toujours ténèbres. Ah oui, que nous ne nous séduisions pas nous-mêmes, même que reconnaissant toute tentation, nous puissions implorer et recevoir la force de l'endurer. Tu es fidèle, Seigneur, et tu ne permettras point que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Si notre cri et nos supplications montent jusqu'à toi, ne cessons donc jamais de te les adresser tant que nous sommes sur cette terre d'épreuve. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et Dieu voulant, à demain pour la suite. Au revoir, mes très chers amis.